les récits des évangiles qui nous rapportent le commencement de la vie de Jésus, particulièrement dans l'évangile de saint Luc et dans celui de saint Matthieu, n'ont évidemment pas pour simple fonction d'apporter des informations sur la manière dont les choses se sont passées. Ils sont destinés d'abord à nous faire découvrir progressivement comment l'ensemble de la mission du Christ est inscrite dès l'origine dans son existence humaine. Sa conception par l'Esprit-Saint, sa naissance et les premières années de sa vie manifestent comment l'incarnation du Fils unique de Dieu en Jésus de Nazareth accomplit une mission prévue et annoncée par les prophètes et dont la destination est universelle. Dans ce cadre, la venue des mages venus d'Orient, comme nous dit l'évangile de saint Matthieu, prend une signification particulière. En effet, ces mages, que l'on peut supposer, en tout cas à qui on prêtera, la qualité de savants et de sages, puisqu'ils ont réussi à trouver le chemin tout seuls, représentent d'une certaine façon la recherche de l'intelligence humaine par rapport au mystère de la vie. Scrutant le ciel, ils cherchaient à y découvrir le sens et l'orientation de l'histoire des hommes, et dans cette recherche, conduite avec les moyens scientifiques dont ils disposaient, avec leur intelligence et avec leur sagesse, ils ont accepté de suivre un signe qui les a conduits à Jérusalem pour y découvrir le roi des Juifs dont ils savaient qu'il devait naître à ce moment-là. Nous avons vu se lever son étoile et nous sommes venus nous prosterner devant lui. Cette démarche, qui n'est pas associée d'aucune façon explicite dans l'Évangile à la tradition de l'Ancien Testament et des prophéties d'Israël, cette démarche symbolise d'une certaine façon, autour de la personne de Jésus, la rencontre des sagesses humaines qui cherchent avec honnêteté le chemin de l'accomplissement de l'existence de l'homme et la révélation dans la personne de Jésus de l'accomplissement des prophéties d'Israël. D'une certaine façon, la rencontre dans la grotte de Bethléem, des mages et du Christ, est une affirmation qu'il y a inscrit dans la naissance de Jésus, dans son existence et dans sa mission, la prophétie d'une rencontre de la révélation divine et de l'intelligence humaine. Le long chemin parcouru par les mages, qui les conduit à Jérusalem d'abord et ensuite à Bethléem, est comme une sorte d'annonce du long chemin que tant d'hommes et de femmes vont avoir à parcourir au cours des siècles pour partir de leurs interrogations, de leurs réflexions, de leur sagesse, de leur philosophie, pour cheminer vers l'éclatante vérité manifestée dans la personne de Jésus, qu'ils ne connaissent pas encore, qu'ils ne sont peut-être pas prêts à reconnaître, mais dont leur recherche est comme un appel. Ils cherchent la vérité, ils cherchent le chemin du bonheur, et s'ils suivent avec humilité, avec générosité, les impulsions de l'intelligence humaine, s'ils acceptent de purifier ce qu'il peut y avoir en elles, de volonté de domination et de perversion dans la conduite de l'existence des hommes, ils peuvent s'approcher progressivement de cette vérité manifestée dans le Christ et qui hérite de toute la tradition d'Israël. Ce point de rencontre entre la révélation positive qui est faite dans l'Écriture et la recherche hésitante et balbutiante de l'intelligence humaine est un point ultra sensible de notre situation chrétienne dans le monde. En effet, la question à laquelle nous sommes confrontés, c'est de savoir si la révélation positive telle qu'elle a été manifestée à travers la Bible et telle qu'elle a pris forme en particulier à travers les élections successives d'Abraham, de Moïse, puis des rois et des prophètes, est-ce que cette révélation positive, est-ce que cette élection est une mise à part d'un reste par rapport à l'humanité, ou est-ce que déjà, comme nous l'annonçait le prophète Isaïe, elle est ouverte en promesse vers l'accueil de l'humanité tout entière? Est-ce que notre foi chrétienne est un produit tout à fait exceptionnel, mais réservé à notre usage et à notre seule intelligence, à notre seule compréhension, ou bien est-ce qu'elle est réellement une expérience humaine qui est capable de s'exprimer dans des termes qui sont accessibles à la raison humaine bien intentionné et sans a priori? Autrement dit, est-ce que nous pouvons échapper à la tentation de nous enfermer dans une sorte de consommation interne de la révélation de Dieu? Est-ce que nous sommes acculés à regarder avec indifférence et parfois avec crainte et parfois avec hostilité, les tentatives de l'humanité pour progresser dans la connaissance de la vérité? Cette question est au cœur de l'évangélisation, et elle pose avec force et de manière sans cesse renouvelée la possibilité pour les hommes et les femmes qui nous entourent et qui ne partagent pas notre foi et qui n'ont pas accès encore à la révélation positive, la possibilité pour eux de reconnaître dans l'expérience chrétienne une action humaine qui a un sens à leurs propres yeux, et donc de pouvoir accueillir l'interrogation que cette expérience humaine projette sur leur propre existence. Poser cette question qui concerne l'Église tout entière dans sa mission universelle prend un relief encore plus significatif peut-être au moment où nous célébrons avec les sœurs qui nous entourent les vœux temporaires ou définitifs d'un certain nombre de sœurs. Faut-il chercher une attitude nécessairement incompréhensible de cet engagement et nous contenter de dire pourvu que ça ait du sens à nos yeux, ça suffit? Ou bien faut-il nous interroger sans cesse sur la capacité humaine de comprendre ce qu'il y a de tout à fait exceptionnel dans l'engagement radical de la liberté à la suite du Christ? Cette question, nous la vivons aujourd'hui dans cette célébration. Nous allons voir ces sœurs, nous allons les entendre, elles vont prononcer leurs vœux. Est-ce que c'est, par définition, quelque chose d'incompréhensible et d'inimaginable qui reste à jamais fermé à l'humanité qui nous entoure? Ou bien est-ce qu'il s'agit d'un engagement dont la mise en œuvre à travers une communauté, dans une congrégation, avec son charisme, ses œuvres et sa spiritualité, porte un signe qui peut devenir parlant pour des hommes et des femmes qui ne partagent pas notre foi. Cette question, nous la portons et nous la vivons non pas comme une question résolue, mais comme une question stimulante. Non pas parce que nous voudrions nécessairement traduire ce qu'il y a de tout à fait exceptionnel dans cette expérience en termes banals qui pourraient être compris par tout le monde et donc qui seraient d'une certaine façon une trahison par rapport à ce qu'il y a d'absolument original dans leur démarche, mais parce que nous sommes constamment sollicités pour mettre en œuvre notre engagement à la suite du Christ d'une façon qui a un sens par rapport à l'humanité. Nous ne sommes pas invités à faire une église ésotérique. Nous ne sommes pas invités à faire des communautés religieuses inintelligibles. Nous sommes invités à mener une existence chrétienne lisible, comme chaque communauté religieuse est invitée à montrer en toute simplicité et en toute modestie la figure humaine de ce qui est vécu dans l'engagement radical des vœux perpétuels ou des vœux des premiers vœux. C'est un enjeu considérable et c'est une sollicitation permanente pour notre foi. Nous ne sommes pas une sorte de communauté close et imperméable. Nous sommes par définition une communauté ouverte. Tout l'enjeu de cette ouverture, c'est comment nous sommes capables d'accueillir les questions, les paroles, les gestes, quelquefois les critiques, quelquefois les agressions, quelquefois la violence de ceux qui ne connaissent pas le cœur de notre expérience. Vivre cela dans cette basilique qui est simultanément voué, par construction, à l'adoration permanente du Christ, c'est-à-dire à ce qui est tout à fait au cœur de la foi chrétienne, et qui est voué, par les circonstances dont nous sommes les témoins, à être un lieu de passage pour quantité d'hommes et de femmes du monde entier, dont certains partagent notre foi, et comprennent le sens de l'adoration que nous vivons et dont d'autres sont complètement ignorants de notre foi, ignorants peut-être des signes que nous donnons dans cette basilique, mais capables cependant d'identifier quelque chose à travers ce que nous faisons avec nos corps, ce que nous disons avec nos mots, ce que nous chantons avec nos hymnes, en deçà d'une rencontre d'intelligence, de pensée, il y a la rencontre du symbole de la foi manifestée dans l'acte d'adoration dont nous sommes les porteurs pour notre génération. Voir des hommes et des femmes fixés et comme attirés par l'amour manifesté par Dieu dans l'Eucharistie, c'est déjà entendre quelque chose du message du Christ. Encore faut-il que ce que nous faisons exprime ce que nos cœurs veulent vivre et ce que nos paroles disent. Frères et sœurs, en priant pour nos sœurs qui vont prononcer leurs vœux, nous prions pour toutes leurs sœurs de la congrégation, nous prions pour tous les chrétiens qui, de toutes sortes de façons aujourd'hui, sont confrontés à être porteurs du signe auquel va participer la rencontre de l'intelligence et de la sagesse humaine, et nous prions pour tous ceux qui ne connaissent pas Dieu, mais qui cherchent avec sincérité le chemin de la vérité et du bonheur, et pour qui notre présence peut être un signe. Amen.